Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Jeanne Hachette.
Réappropriation vomitive d'une moins que rien.
La hache.
Étymologiquement, le terme français de hache dérive d'une racine commune que l'on retrouve dans plusieurs autres pratiques linguistiques apparentées de l'ouest et du nord du sous-continent européen. Ainsi, axe en anglais, axe en allemand, hacha en castillan, hacha en catalan ou hacia en italien, pour ne citer que quelques exemples, semble provenir d'un même étymon selon les linguistes. En français, il est présent dans le terme peu usité de axinomancie, qui désigne une forme de divination par les vibrations ou oscillations d'une hache plantée dans un poteau pendant l'Antiquité gréco-macédonienne. Dans quelques régions du sud et de l'est européen, le sens de hache est rendu par l'étymon latin securis, que l'on retrouve autant dans le roumain secur que dans le polonais siekira, le slovène sekira ou le macédonien sekira. En français, cette racine est uniquement présente dans le terme securiforme, utilisé pour désigner les objets en forme de hache. Si certaines pratiques linguistiques ont conservé d'autres racines pour désigner une hache, telles l'occitan destral ou le nissar destrao, qui se base sur l'étymon latin dextralis avec le même sens, l'étymon securis se retrouve parfois dans la toponymie ou les patronymes des hominines. Pour ne citer qu'un exemple, le patronyme de la célèbre rebelle Catherine Séguran vient du nissar sega avec le sens de haché. Pour la protivophilie, la hache revêt un caractère particulièrement important, car l'unique illustration des analectes doriens de F. Merjanov représente une petite hache. Non pas une photographie, mais un modèle simple et stylisé d'une hache dessinée. Les raisons d'un tel choix et les symboliques auxquelles cela renvoie restent pour l'instant inexpliquées. Peut-être une référence à cet outil que des révolutionnaires russes du XIXe siècle agitaient symboliquement ou littéralement pour terroriser les tyrans et exalter les exploités, qui, contrairement au premier, se tuent à la tâche. Comme le dit le dicton, l'ouvrier se tue à la tâche, le patron se tue à la hache. Afin d'étudier cette problématique, la protivophilie propose de suivre les chemins séguriens qui seuls permettent d'explorer, à travers le temps et l'espace, ce qui lie intrinsèquement F. Merjanov à la hache.
Cache un fantôme, un rat ou un voleur.
Il fait gicler l'eau dans la cuisine, fait gémir ses pas sur le plancher. Une forme bistre s'illumine, là, dans la lucarne, elle est cachée.
La plus ancienne hache retrouvée à ce jour est datée de presque 2 millions d'années et située dans les gorges d'Olduvai en Afrique de l'Est. Il est pour l'instant impossible d'affirmer avec certitude laquelle des trois espèces d'hominines qui coexistent alors dans l'espace géographique est-africain est à l'origine de cet outil. Que ce soit les australopithèques, les paranthropes ou les homo habilis, toutes ces espèces d'hominines semblent en mesure de fabriquer un outil rudimentaire avec des éclats de pierre et des pierres taillées. Les fouilles menées depuis le début du XXe siècle après J.C. par les paléo-anthropologues et autres archéologues de la préhistoire sur des sites d'Homo habilis ont permis de mettre à jour une industrie lithique importante et une technicité grandissante. La hache est constituée d'un éclat de pierre tranchant, taillé pour cela, et coincé entre deux morceaux de bois maintenus entre eux avec une corde. L'évolution technique est considérable. Grâce à sa conception, l'outil vient dans le prolongement de la biomécanique du bras des hominines et augmente ainsi la force et la vitesse à laquelle le tranchant de la hache entre en contact avec ce qui est visé. Comme le simple bâton avant lui, l'utilisation d'un manche permet aussi d'une part de maintenir une distance entre soi et la chose visée et d'autre part d'atteindre les choses les plus éloignées. Le poids de la pierre, la qualité de son tranchant et la longueur du manche sont les principales caractéristiques sur lesquelles jouer afin de créer des haches pour des utilisations bien précises. Les datations des plus anciennes haches retrouvées sur la rive européenne de la Méditerranée sont estimées à environ 800 000 ans avant le présent. Chez les hominines, les évolutions des techniques et technologies de l'extraction du métal et de la maîtrise des fours à haute température accompagnent les évolutions des techniques de fabrication de haches. La pierre taillée ou polie est progressivement remplacée par du cuivre, puis par un alliage entre l'étain et le cuivre, le bronze, puis par du fer. Hormis de très rares exceptions où ils sont en métal, les hominines fabriquent les manches à partir de différents types de bois. Au cours de l'âge du bronze, entre 5000 et 3000 avant le présent, les haches sont des outils très diversifiés dans leurs formes et leurs usages. Elles se distinguent entre elles par le type d'emmanchement de la lame et la forme de celle-ci. Les haches sont utilisées pour couper, fendre ou entailler des végétaux durs, des cadavres d'autres espèces animales ou d'hominines. Elles sont des outils de production autant que des armes. Leur fabrication nécessite une industrie dédiée, la métallurgie, avec tout ce qui implique comme activité annexe. L'exploitation de gisements de minerais, l'appropriation et le transport de cette matière première, l'entretien et l'utilisation de fours sont quelques-unes de ces activités qui instaurent des spécialisations dans la plupart des sociétés d'hominines. Pour qui aime les histoires loufoques, les multiples mythologies inventées par les hominines regorgent d'histoires et de superstitions autour de la fabrique et du travail du métal. Du forgeron qui repousse le mal par son activité très bruyante au fer à cheval censé porter bonheur.
Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé.
De sa structure, la hache est un outil à usage domestique pouvant être utilisé en armes, mais certaines sociétés dominines ont développé une distinction claire entre ces deux types d'usages. Les haches domestiques sont à disposition des hominines qui le désirent, sans restriction, mais celles destinées à l'attaque ou à la défense sont un domaine réservé à une minorité. Parfois simple apparat du pouvoir, les haches d'armes sont surtout un outil de contrôle social pour les hominines qui détiennent ce monopole. Leurs formes sont spécifiques et répondent aux nécessités de devoir repousser une attaque ou en être à l'origine. Elles se forgent au fil des évolutions des formes de conflit entre les hominines et répondent à l'apparition de nouvelles armes. La hache à double lame en métal et pique au bout du manche n'est pas vraiment conçue pour une utilisation domestique.
Certainement l'un des clichés les plus répandus et les plus tenaces de tout l'imaginaire des armes, la hache à double tranchant. Mais si vous savez, la hache de barbare level 99, maniée par un type qui fait 2m30, 300 kg de muscles secs, torse nu et en slip en plein blizzard. Ou par un nain bien vénère qui hurle « Et pour Kazabdoum !» avant de découper un troll en deux. Bref, une arme qu'on voit partout, qui s'est totalement inscrite dans notre imaginaire, au point qu'en fait, ça paraisse assez évident que ce genre d'arme a existé. Donc aujourd'hui, on va se demander si c'est une arme bien réelle, ou si elle est tout droit sortie de nos fantasmes, et que ce soit oui ou non, on va ensuite voir si c'est une arme pratique à utiliser. Allez, c'est parti. Alors, figurez-vous que oui, cette arme a bien existé, et pas qu'un peu. On retrouve des traces de cette arme dès le néolithique, donc à l'époque quoi. Ces haches à double tranchant étaient évidemment en pierre et portaient le nom de bipenne. Ça vient du latin bipennis, qui signifie « qui a deux plumes ». Et non, ça ne veut pas dire double Chibrax 3000.
Dans les nombreux lexiques et dictionnaires qui recensent les pratiques linguistiques entre le 9e et le 16e siècle sur l'actuel territoire de la France, il est à noter que plusieurs termes coexistent pour se rapporter à la hache. Point de chevauchement entre les pratiques linguistiques celtiques, germaniques et latines, cet espace gallo-roman forme un vaste continuum dans lequel il n'existe pas de frontières strictes. S, A-I-S-S-E, Asia, A-S-C-I-A, Asso, A-S-S-E-A-U, Esset, A-I-S-S-E-T-T-E, ou Essot, A-I-S-S-O-T-E, côtoie, Echot, Asso, H-A-C-E-A-U, Asset, H-A-C-E-T-T-E, ou H, et en sont des synonymes, ou bien désignent des H spécifiques. Ainsi, une S, A-I-S-S-E, est plutôt une sorte d'herminette, c'est-à-dire une courte H dont le tranchant est perpendiculaire au manche, alors que Asset, H-A-C-E-T-T-E, nomme de courte H au tranchant parallèle. Une Asia, A-S-C-I-A, est autant une doloire de charpentier qu'un instrument de décapitation chez les hominines. Tout au long du processus de standardisation linguistique qui aboutit au français moderne, les hominines, appartenant aux classes sociales supérieures, ont questionné l'orthographe à retenir. Faut-il l'écrire avec ou sans H ? Finalement, l'orthographe s'est normalisée avec la lettre H, aspirée et quasi muette, qui accentue la composante germanique de la langue et instaure une prononciation spéciale lors d'un emploi au pluriel. Il est strictement interdit de faire la liaison en S entre un S pluriel et H, contrairement à les histoires de les hirondelles. Même si quelques exceptions existent, la règle générale en français consiste à faire la liaison en S lorsque le terme est d'origine latine ou grecque, et de ne pas la faire lorsqu'elle est germanique. Tant de punitions et de brimades d'enfants, d'humiliations d'adultes pour cette simple absence de liaison inculquée de force pendant des générations. Pour les hominines des classes sociales inférieures, la question autour de la hache se pose autrement. Qu'il faille l'écrire avec ou sans, la hache est vitale. Que ce soit en Macédoine ou à Nice, elle est un outil indispensable à la survie quotidienne, présent dans chaque famille jusqu'au milieu du XXe siècle. La hache est très populaire. L'agriculture, l'élevage, l'artisanat ou la construction regorgent d'activités différentes qui nécessitent des types de haches particulières. La dimension et le poids d'une hache de bûcheronnage n'ont absolument rien à voir avec un hachoir à viande. Une hachette à fendre des bûches est très différente d'un cochoir de tonnelier. Alors que l'utilisation de la hache perdure parmi les hominines les moins riches, elle disparaît du champ militaire réservé aux élites, progressivement remplacée par l'épée, plus maniable et équilibrée, pour devenir un simple ustensile d'apparat du pouvoir et, dans le même temps, le symbole du bourreau. L'introduction, puis la généralisation des armes à feu, annonce sa fin prochaine.
Ok, j'ai bientôt 30 balais, j'ai pas fait de grande carrière et quand je fais les comptes, ça fait 15 années de formatage intellectuel suivi de 15 années à réapprendre à penser par moi-même. Et putain, crois-moi, c'est un job à plein temps. Je commence à peine à savoir comment fermer les tympans. Ouais, pendant tout ce temps, j'étais en chantier, mais ça y est, j'ai réussi à me désenchanter. Avant j'étais con, je prenais le monde qu'on me donnait, le nez dans les néons, consommer, me consoler. Avant j'étais bon, je comprenais qu'on me volait, mais j'avançais mes pions, je croyais que je contrôlais. Avant j'avais des chaînes invisibles, j'entrevoyais des destins sous des textes indicibles. Avant j'étais une vache, avant j'étais une tâche, je voulais laisser une trace, maintenant j'ai une hache. Je respecte plus la procédure, sache que je m'en bats les couilles parce que maintenant j'ai une hache.
Maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache. Tu fais le show mais tu flanches, tu fais le champ mais tu te fâches, moi je t'enlève une hanche, maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache, maintenant j'ai une hache, ça simplifie les choses. Je me soucie plus des conséquences, j'élimine les causes. Eh oh, est-ce que quelqu'un m'entend là-haut? En fait je m'en bats les steaks, en bas je suis bien dans ma peau, ok. J'ai tiré un trait sur la capitale, histoire de laisser refroidir un peu la carte vitale. La vie c'est pas ça, obligé de m'adapter. J'ai dit c'est pas grave, j'ai pris mes bagages, j'ai quitté Paname, je kiffe la vibe, assouvir mes désiderata. Ici j'ai ma place, ma clique et ma femme, ma zik et ma cam, la weed et parfois j'ai frite le taga. Zi de PO dans la nuit, tu vois briller ma flamme. Tu fais du cinéma toi, ton style est banal, tes idées bas de gamme. Reste en ville et va bien niquer ta race. Je remplis mes trois flashs et trinque à la santé du pacte. Fais gaffe au clan que tu clashes, maintenant j'ai une hache.
Je respecte plus la procédure, sache que je m'en bats les couilles parce que maintenant j'ai une hache.
Maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache.
Tu fais le show mais tu flanches, tu fais le champ mais tu te fâches, moi je t'enlève une hanche, maintenant j'ai une hache.
Maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache. Oui oui, j'ai des choses à cacher, des secrets avachis tout au fond d'un cachot. Attachés, tels des chiens carnassiers, mal assis, cadenassés. Mais si ça pète, ça va chier. Les philanthropes des philanthropes. Moi j'ai pris l'enveloppe du misanthrope, mais j'écris dans le bloc-notes. Quoi qu'il en coûte, l'enfer c'est l'époque. Les gens en fait c'est des clones, ils ont les mêmes idées comme ils ont les mêmes téléphones. Ils se vexent car je les flatte même plus et veulent que je me faxe en deux plates excuses. Mais y'aura plus de mea culpa. Je porte déjà le deuil de ce monde et le poids de ses erreurs à bout de bras, putain. L'intérim c'est mieux que la muscu et peut-être que ça te fait rire, mais moi ça m'amuse plus. Je vais partir au casse-pipe avec un stylo de plastique et une hache car tout ceci noche passe vite.
Désolé, je respecte plus la procédure, sache que je m'en bats les couilles parce que maintenant j'ai une hache.
Maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache.
Tu fais le show mais tu flanches, tu fais le champ mais tu te fâches, moi je t'enlève une hanche, maintenant j'ai une hache.
Maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache,
maintenant j'ai une hache.
Dans les sociétés dominines, la mise à mort par la séparation du corps et de la tête est une pratique sociale attestée depuis plusieurs millénaires. Destinée à punir des crimes ou délits jugés suffisamment graves pour mériter la mort, cette décapitation, du latin caput, tête, est réalisée de multiples façons. La méthode la plus courante est l'utilisation d'une hache pour trancher la tête au niveau du cou, soit avec élan pour que la lame atteigne avec rapidité et lourdeur la nuque de l'hominine, soit en plaçant la lame directement en contact avec la peau et en frappant avec une masse sur le dessus de la hache. Suivant l'habilité du bourreau, la mort peut être quasi immédiate ou nécessiter de s'y reprendre à plusieurs fois. Parfois, la tête est coupée après la mort, soit afin de terminer un long processus de torture, soit pour être exhibée publiquement en guise de trophée et impressionner les hominines. Les premières tentatives de mécaniser les décapitations sont attestées dès le XIIIe siècle. Hormis quelques histoires de la mythologie christienne relatant la vie de personnages de fiction qui survivent à leur décapitation, les hominines meurent à chaque fois que la tête est séparée du restant du corps, comme l'ensemble des autres espèces animales vivantes, et les zombies aussi. En France, avec la pendaison et le bûcher, la décapitation à la hache est souvent réservée aux hominines des classes sociales inférieures, des élites bénéficiant du privilège d'être décapitées à l'épée, méthode jugée plus noble et plus nette. Quoi qu'il en soit, la peine capitale touche beaucoup plus les hominines du bas de l'échelle sociale que celles qui trônent dans les alentours du sommet. Les nécessités de la survie quotidienne mènent plus facilement à la mort que les querelles de palais. Le renversement de la royauté française et la proclamation d'un régime républicain en 1789 ne bouleversent pas la réalité des choses. Le privilège de la décapitation à l'épée est aboli et la peine de mort par décapitation est étendue à l'ensemble des hominines en 1791. Les tortures avant la mise à mort sont dorénavant interdites. L'année suivante, la machine à décapiter du docteur Antoine Louis est officiellement admise en tant que seule manière légale de mise à mort, jugée moins cruelle. D'abord appelée Louison ou Louisette, cette machine prend finalement le nom du député qui fait adopter son utilisation par le Parlement, Joseph Ignace Guillotin. La hache et l'épée sont abandonnées au profit de la guillotine. La première exécution a lieu en avril 1792 à Paris. Dans la période la plus sanglante de cette révolution républicaine, entre 1793 et 1794, la guillotine coupe des milliers de têtes. Rois, reines, nobles ou révolutionnaires en disgrâce sont ainsi raccourcis, mais, comme auparavant avec la hache, dans les faits, la guillotine concerne essentiellement les hominines des classes populaires. Une situation qui perdure jusqu'en septembre 1977, date de la dernière exécution en France. De nos jours, parmi la cinquantaine de pays autorisant la peine de mort, seuls le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis refusent la mise à mort par injection chimique ou par électrocution et préfèrent la décapitation au sabre.
Depuis des millénaires que les hominines utilisent des haches, celles-ci n'ont cessé d'être améliorées, diversifiées et spécialisées. Ustensiles indispensables dans les sociétés d'hominines sédentaires et agricoles, elles y sont omniprésentes. De par le monde, il en existe des centaines de formes, de tailles et d'usages différents. Pour autant, la hache n'est pas un symbole de la vie des hominines du commun, mais plutôt celui des castes guerrières et des pouvoirs politiques. Sur le sous-continent européen, la hache est présente sur les blasons de la noblesse ou dans les représentations guerrières, même après son obsolescence face à l'épée et aux armes à feu. Paradoxalement, elle symbolise la force politique autant que l'esprit de révolte. Généralement, les haches à double lame sont l'apanage des militaires à la solde des pouvoirs politiques qui s'en servent pour protéger leurs biens ou pour contraindre les hominides à leur payer des impôts. Les haches domestiques ont très rarement un double sens, et lorsque c'est le cas, il s'agit d'un marteau ou d'un poinçon plutôt que d'une seconde lame. Si les haches domestiques ne sont pas conçues pour guerroyer, elles restent néanmoins une arme pour les hominines qui refusent les décisions des pouvoirs politiques en place. Les militaires et autres mercenaires y sont souvent confrontés dans leur tentative de mater une révolte paysanne ou de contraindre des hominides à payer l'impôt exigé. Pour celles qui ne supportent pas de lire de l'économie ou de l'histoire, nous pouvons résumer et dire que l'impôt est une très ancienne arnaque par la contrainte qui, pour le ramener à un contexte actuel, est similaire à ces situations où des hominides vous demandent de l'argent sur un parking afin de garder votre véhicule et éviter ainsi qu'il ne soit endommagé en votre absence par des personnes mal intentionnées. Refuser, c'est l'assurance de dégradation bien plus onéreuse que l'argent demandé. Le chantage est imparable. L'escroquerie est millénaire. L'exemple fonctionne aussi avec une maison, une famille, un commerce ou n'importe quel bien. Pour la plupart des hominines, la hache d'armes représente l'autorité politique et l'escroquerie fiscale qui l'alimente.
Écrit anonymement à une date inconnue, Histoire nihiliste de la hache est, pour la protivophilie, l'ouvrage le plus complet sur ce sujet. Une réelle tentative de regard ségurien sur l'histoire des hominines. Malheureusement, aujourd'hui inaccessible, seules quelques bribes sont mentionnées de ci, de là, dans de très rares ouvrages spécialisés. Même s'il reste encore très partiel, de récents travaux protivophiles ont permis un début de recensement.
Jeanne Hachette.
En l'absence des registres des naissances de la ville de Beauvais, dans le département actuel de l'Oise, au nord de Paris, du XVe siècle, il est impossible de savoir exactement à quelle date est née Jeanne l'Aînée. Plusieurs sources indirectes citent l'année 1453 ou 1454. Le seul document contemporain est une lettre de 1473 du roi Louis XI qui précise qu'elle est la fille de Mathieu l'Aîné, un hominine demeurant à Beauvais.
Au cours des XIVe et XVe siècles, les territoires de l'ouest du sous-continent européen sont disputés par plusieurs dynasties royales concurrentes. Des branches cousines se réclament des royaumes d'Angleterre, de France et de Bourgogne et lorgnent sur des territoires de l'autre. Elles s'opposent dans des guerres incessantes. Depuis des siècles, les dynasties s'affrontent pour étendre leur territoire et pour cela, elles utilisent les mariages, les échanges, les achats ou les conquêtes. Sans considération pour les hominines qui y vivent, des régions s'échangent et des frontières se créent au fil des arrangements entre ces concurrences dynastiques. Dans la première moitié du XVe siècle, la situation se stabilise. Une paix est signée entre les royaumes de France et de Bourgogne, et celui d'Angleterre est repoussé sur les îles britanniques. Dans la seconde moitié du XVe siècle, la cousinade géopolitique est réconciliée. Selon un référentiel moderne, le royaume de Bourgogne s'étend approximativement sur les régions françaises du Nivernais, de Bourgogne, de Lorraine et des Flandres, ainsi que sur le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Outre ces régions plus méridionales, le royaume de France s'étend au nord sur la Normandie, la Picardie, la région francilienne et la Champagne. Le royaume bourguignon est alors une puissance régionale militaire et culturelle importante. Alliée au royaume de Bretagne, la Bourgogne de Charles le Téméraire entre en guerre à la mi-juin 1472 contre le royaume de France de son cousin Louis XI. Le bourguignon accuse le francien d'avoir tué son propre frère au prétexte qu'il était allié avec lui et d'occuper ses terres illégitimement. L'offensive est lancée à partir des Flandres. Des milliers de soldats traversent la Somme et entrent en Picardie sur le territoire du royaume de France. Progressivement, les troupes avancent. Elles rasent les villes et les villages, massacrent les hominines et pillent les réserves de nourriture. Les hominines qui parviennent à s'enfuir se réfugient dans les villes alentour. La peur se répand parmi la population. Les forces bourguignonnes arrivent à proximité de Beauvais à la fin du mois de juin.
À cette époque, Beauvais est une ville importante dans cette partie nord du royaume francien. Tenue par quelques dizaines de familles d'hominines, l'industrie de la draperie qui s'y développe est le moteur économique de la ville. Outre les activités liées à l'importation de matières premières, puis à l'exportation des produits sortis des ateliers, cette industrie nécessite toute une somme de métiers annexes. Les tensions sociales sont parfois fortes entre les ouvriers drapiers et leurs employeurs. Carrefour commercial, Beauvais est aussi un lieu où les autorités religieuses christiennes s'implantent pour diffuser leur foutaise. L'absence d'un quelconque titre ou de statut social dans la seule mention qui est faite de Mathieu l'aîné par le roi Louis XI laisse à penser qu'il est homme du peuple. Peut-être employé dans l'industrie locale, au service d'un commerçant, du clergé ou bien d'un noble. Les choix ne sont pas infinis. Rien n'est dit sur la mère de Jeanne l'aîné. Tout au plus pouvons-nous affirmer qu'un père a reconnu son enfant. Son invisibilité dans le texte de 1473 s'explique non pas par sa mort, mais par l'absence de sens pour son rédacteur de mentionner l'hominine femelle génitrice pour définir une parentalité, d'autant plus si elle ne peut se parer d'un titre glorieux. La famille aînée semble être des moins que rien.
La ville s'est réveillée au son des cloches et du bruit du fer contre la pierre. L'air sentait l'ozone, la chaux humide et l'huile renversée. Les gens couraient vers les remparts, certains vêtus de vestes en cuir, d'autres de chemises en lin. Des copeaux tombaient de la porte, car quelqu'un venait de régler les gonds à la hâte. Au pied du fossé, on voyait bouger des lances et les couleurs du duché voisin. Le nom de Jeanne était répété à voix basse, comme un nom d'espoir, même s'il restait encore du temps avant l'assaut.
L'assaut contre la ville est lancé le 27 juin 1472 au matin. Deux attaques simultanées tentent de s'introduire par deux des portes des fortifications. La première ne parvient à entrer que dans les faubourgs et la seconde est repoussée. Les bourguignons ne parviennent pas à franchir la muraille et perdent de nombreux soldats dans cette tentative. Très peu de soldats franciens sont présents à Beauvais. L'ensemble de la population de la ville participe à la résistance, bien décidée à ne pas subir les massacres et les pillages que les bourguignons ont semés sur leur route. Mâles, femelles et enfants, les hominines de Beauvais s'activent avec détermination pour sauver leur peau. Parmi elles, Jeanne l'aîné, selon les textes, sans armes et au risque d'être blessée, elle s'empare de la bannière d'un soldat bourguignon et va l'arborer fièrement dans l'église. Son geste de bravoure galvanise la foule des hominines. Le roi francien Louis XI envoie en renfort plusieurs centaines d'archers et de lanciers qui arrivent sur place deux jours plus tard pour protéger la ville. En réponse à cette situation, le roi bourguignon Charles le Téméraire décide alors de faire le siège de la ville. Son artillerie est placée dans les faubourgs beauvaisiens et des campements sont installés à proximité de la ville. Une nouvelle offensive est lancée le 9 juillet. mais une fois encore repoussée par la population et les soldats franciens. Quelques tentatives d'infiltration clandestine des camps des assiégeants par des commandos de soldats et dominines de Beauvais réussissent à tuer quelques soldats bourguignons et dérober des canons. Mais cela n'est pas suffisant pour mener une contre-offensive. Après plusieurs milliers de morts dans ses rangs et devant l'impossibilité de venir à bout de Beauvais, le 22 juillet, les troupes bourguignonnes lèvent le siège. Sur le chemin de retour vers les Flandres, les soldats brûlent des villages et dévastent les campagnes des villes qu'ils ne parviennent pas à prendre d'assaut. La Normandie est ravagée.
Notre ville de Beauvais est encerclée, la muraille va céder. Le duc de Bourgogne qui nous hait va nous tuer et nous allons brûler. Nous les femmes, il n'y a jamais, nous jurons de résister. Le porte-drapeau est tombé. Les bourguignons se sont tous sauvés. Vive les femmes acharnées. Et nous gardons la tête haute, car Beauvais le vaut bien. Et nous gardons la tête haute, nous n'avons peur de rien. J'en achète, j'en achète.
Louis XI se rend à Beauvais en janvier 1473. Il s'y livre à quelques bondieuseries autour d'Angadrême, la sainte patronne de la ville, et rend hommage à la population dominine pour sa résistance acharnée. Et spécialement aux dominines femelles pour leur participation active. Dans une lettre du 22 février, il salue « Notre chère et bien-aimée Jeanne l'aînée, fille de Mathieu l'aîné » pour avoir arraché l'étendard d'un soldat bourguignon qui tentait de grimper le long de la muraille de la ville. Pour la remercier, il l'autorise à se marier avec Colin Pilon, les exemptent d'impôts jusqu'à la fin de leur jour et les dispense de quelques travaux obligatoires. En juin, il accorde à toutes les femmes et filles le privilège réservé aux nobles femelles de pouvoir s'habiller librement le jour de leur mariage, et toute autre foise que bon leur semblera. Elles obtiennent le privilège d'être devant les hominines mâles lors de la procession annuelle en l'honneur de la sainte Christiane Beauvaisienne, La plus ancienne mention de Jeanne l'Aînée semble dater de 1497, dans la troisième édition de Compendium Super Francorum Gestis de l'historien Robert Gaguin, qui relate l'épisode de l'étendard mais ne la nomme pas explicitement. Il ajoute qu'elle fait chuter le bourguignon au pied de la muraille. Dans les mémoires de Philippe Comines, un ancien proche de Charles le Téméraire, rallié au roi francien, écrite vers 1490 et publiée en 1524, la même anecdote est attribuée à une Jeanne Fourquet. Rien ne peut être dit de plus sur Jeanne l'Aînée si l'on se réfère exclusivement aux sources qui lui sont contemporaines. Faute de registre, le lieu et la date de sa mort sont inconnus. Tout ce qui se dit sur Jeanne l'Aînée à partir du milieu du XVIe siècle n'est plus une source directe. Les informations qui se transmettent dans le siècle qui suit sa mort le sont par les quelques écrits qui la mentionnent et la persistance d'une mémoire populaire à Beauvais. Les chemins de traverse pris par ces bribes biographiques sont inconnus, tout comme les modifications qu'elles subirent au cours des siècles. L'ouvrage historique de Robert Gaguin est réédité presque 10 fois tout au long du XVIe siècle. Au début du siècle suivant, Antoine Loisel publie « Mémoire de Beauvais » et Pierre Mathieu « Une histoire de Louis XI » dans lequel il relate l'épisode de la prise de la bannière bourguignonne qu'ils attribuent à une Jeanne l'Aînée dite Fourquet pour le premier et à Jeanne Fourquet pour le second. Elle est citée pour faire connaître que la vertu ne distingue ni le sens ni le sexe et que l'on trouve des femmes qui peuvent apprendre aux hommes à vivre et à mourir. Dans le choix de plusieurs histoires et autres choses mémorables tant anciennes que modernes, paru en 1608, Adrien de Boufflet précise que Jeanne Fourquet est « briseresse de l'Aisne ».
L'apparition de ce patronyme de Fourquet reste obscure. Dans les quelques travaux historiques du début du XIXe siècle consacrés à Jeanne l'Aînée, plusieurs raisons sont évoquées. Pour ceux qui retiennent qu'elle est la fille de Mathieu l'Aîné, l'hypothèse est que Fourquet soit le patronyme de sa génitrice. D'autres affirment qu'en fait, la fille d'un important militaire, Jean Fourquet, à la mort duquel, en 1465, elle est recueillie par Dame l'Aînée, qui l'élève comme sa propre fille. Ou encore, que ce patronyme lui vient de son mariage avec Jean Fourquet, un cousin maternel après la mort de Colin Pilon en 1477. Contradictoires, aucune de ces affirmations ne sont vérifiables. Il est aussi probable que Fourquet ne soit pas un patronyme mais un surnom. L'historienne Colette Beaune précise que le Fourquet est un instrument en métal utilisé par les briseresses de laine, nombreuses à Beauvais, capitale de la tapisserie au XVIIe siècle. Le métier de briseresse consiste à peigner la laine avec un outil à manche en forme de peigne en métal à 3 dents, un fourquet, afin d'en extraire les excédents et de la lisser. Cette opération est nommée cardage. L'étymologie du terme fourquet est donc à rapprocher de fourchette.
Si surnom il y a, cela peut signifier qu'elle est briseresse et donc que le fourquet est pour elle un outil commun ou qu'elle en a fait son emblème lors du siège de Beauvais. En effet, nulle mention de hachette avant Histoire de Navarre de André Favin en 1612. Sans citer ses sources, et bien qu'il a dit armée d'une épée, Jeanne l'Aînée devient Jeanne Hachette. Il la qualifie d'Amazone de Beauvais et déforme les faits en affirmant que sa descendance est elle aussi exemptée de tout impôt. Au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, les ouvrages qui paraissent parlent indistinctement de Jeanne l'Aînée dite Fourquet ou de Jeanne Hachette. Idem au siècle suivant avec, en 1764, la tragédie en 5 actes, le siège de Beauvais ou Jeanne l'Aînée, ou celle en 1791 de Sade, simplement intitulée Jeanne Hachette, dans laquelle il rappelle que son vrai nom est Jeanne l'Aînée. Et quelques autres encore relatent l'épisode de l'assaut. La légende qui se tisse progressivement autour de Jeanne l'Aînée transforme son acte de bravoure et de résistance en un miracle accompli par la sainte patronne de Beauvais et fait de Jeanne l'aînée une fervente christienne portée par la volonté divine. Parfois, elle est aussi érigée en symbole du patriotisme. Au-delà de sa vie réelle et de ce que nous pouvons en savoir, rien, Jeanne l'aînée se retrouve malgré elle dans les querelles politiques, les intérêts religieux et les convoitises personnelles d'un autre temps. Le vrai miracle est celui de la faire parler, de lui prêter des propos dans la littérature qui lui est consacrée dans les siècles qui suivent sa mort. La jeune hominine qui lutte pour sa survie devient une fanatique religieuse qui se croit sous l'emprise de la sainte locale et de sa divinité, une fervente défenseuse de la royauté de Louis XI ou une patriote française. Pour les autorités religieuses beauvaisiennes, elle est l'incarnation de la puissance de la sainte locale et une validation indirecte de leur mythologie. Pour les royalistes, elle est le symbole de l'attachement populaire à la dynastie régnante. Et pour les défenseurs de la France, elle représente la lutte contre l'étranger hostile. Elle est ainsi traînée dans la boue. Les mécanismes qui mènent à la disparition de Jeanne l'aînée pour laisser place uniquement à Jeanne Hachette ne sont pas connus. Comment le Fourquet est-il devenu Hachette ? Dorénavant, les représentations du siège de Beauvais montrent Jeanne Hachette, évidemment armée d'une hachette, boutant les soldats bourguignons des murailles de la ville, même si quelques textes racontent qu'elle avait une pique ou une épée. Le personnage de fiction prend vie. Jeanne Hachette s'impose. Remplaçant la royauté française en 1789, le nouveau régime républicain transfère de l'église à la mairie de Beauvais les restes abîmés de l'étendard prétendument daté de 1472 pour l'exposer dans le hall de l'édifice municipal en 1790 et instaure, la même année, une procession en l'honneur de Jeanne Hachette lors de laquelle l'étendard bourguignon est exhibé à travers les rues de la ville. Le privilège accordé aux hominines femelles de parader à l'avant est conservé et, symboliquement, une jeune orpheline du nom d'Anne Angélique Boudeville est désignée porteuse pour cette première procession républicaine. Des trois processions commémoratives instaurées depuis le règne de Louis XI, le 27 juin, date du siège, le 22 juillet, date du retrait bourguignon, et le 14 octobre, date de la Sainte-Engadrême, le nouveau pouvoir républicain ne conserve que le 27 juin, pour en faire une procession laïque organisée par les autorités municipales.
Elle se dresse face à l'hôtel de ville. Un pied posé sur l'échelle, l'héroïne repousse l'assaillant. Mais avait-elle une hache à la main ?
On pense qu'elle ne disposait pas à l'époque d'instruments de défense. Et c'est plus tard les historiens et les artistes qui l'ont présentée avec une petite hache à double tranchant dans les mains, qu'elle n'avait peut-être pas à l'origine.
Jeanne l'aînée passe à la postérité sous le nom de Jeanne Hachette. Elle est omniprésente à Beauvais. Nous la retrouvons sur ce tableau dans la cathédrale Saint-Pierre. L'action se déroule en 1472. La ville est assiégée, dit-on, par 80 000 bourguignons.
Ce sont les hommes qui se battent, mais comme les hommes n'ont pas reçu les ordres de prendre les armes, puisque l'évêque est parti, bien Jeanne va aller chercher ses petites amies et puis hop, elles vont toutes ensemble monter sur la muraille de la ville. Et elles vont empêcher les bourguignons de rentrer.
La jeune fille aurait pris un étendard à l'ennemi. Chaque année, le trophée est exhibé lors des fêtes Jeanne Hachette, une copie. Mais qu'en est-il de l'original ?
Les années 1900, quand vous regardez des cartes postales, il y a un étendard. Alors, de où venait cet étendard ? Je ne peux pas vous le dire. Où est-ce qu'il est disparu? Je ne peux pas vous dire non plus. C'est le problème de l'histoire qui n'a pas été retransmise de génération en génération. C'est un peu notre regret.
Parfois remise en cause, l'existence de Jeanne l'aînée, simple fileuse de laine, est pourtant attestée. Louis XI a récompensé la jeune Beauvaisienne de la résistance offerte aux troupes de Charles le Téméraire.
Nous n'avons plus actuellement que la copie de ces lettres patentes qui ont disparu dans les bombardements de 40. Le roi Louis XI exempte Jeanne Hachette et son fiancé Colin Pilon de taille leur vie durant.
Quelques décennies séparent Jeanne Hachette de sa devancière Jeanne d'Arc. L'irruption des deux femmes sous les feux de l'histoire consacre l'émergence du sentiment national.
Le 19e est le siècle où se construit la mythologie française. Le roman national s'écrit avec la nécessité de rompre avec l'héritage royaliste tout en se donnant une profondeur historique remontant aux premières dynasties du 9e siècle. Comme le clergé chrétien avant lui, qui, pour se donner un ancrage local et une légitimité historique, s'invente une myriade de saints et de saintes parfois issus du paganisme local. La mythologie nationale cherche à mettre en lumière des personnages historiques locaux qu'elle réinvente partiellement. Bien malgré elle, Jeanne l'Aînée est invitée dans les débats. Les textes historiques, l'exhumation de traditions locales et les intérêts présents sont le cœur de cette réécriture. Jeanne Hachette est élevée au rang d'héroïne de Beauvais. Moult détails biographiques sur elle apparaissent. Ainsi, elle aurait vécu avec son mari Colin Pilon dans la rue Puy-Jean-Saume, puis évidemment rebaptisée rue Jeanne Hachette, avant de déménager dans une maison plus grande à quelques pas de là. Des anecdotes invérifiables voient le jour. Au milieu du siècle, les esprits s'enflamment. Jeanne Hachette est citée dans plusieurs ouvrages traitant de l'histoire de France et la mairie de Beauvais inaugure en 1851 une statue en l'honneur de la nouvelle héroïne. En présence de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, empereur des Français à partir de 1852, la cérémonie est accompagnée par plusieurs centaines de musiciens qui jouent la cantate à Jeanne Hachette, du compositeur autrichien Sigismund von Neukomm. Hormis des mentions dans des notices historiques qui restent vagues, des ouvrages qui lui sont consacrés ou quelques pièces de théâtre, des articles douteux paraissent sous la plume de Jean-Pierre Fourquet d'Hachette qui se prétend descendant de Jeanne l'Aînée. Il avance la date du 15 novembre 1454 pour la naissance de son aïeul, dont il fait la fille d'un militaire renégat à Louis XI, dont la mère décède lors de l'accouchement et est élevée par une intendante nommée Mathieu l'Aîné. Sa biographie est un mini-roman historique. Après la publication en 1833 de « Histoire de France, siège de Beauvais, 1472 », Jeanne Fourquet, surnommée Hachette, particularité inédite de ce siège mémorable, recueilli et publié par Fourquet d'Hachette, hormis son narcissisme, l'intérêt principal de ce prétendu descendant est d'obtenir une récupération partielle de l'exemption d'impôt de son aïeul. Il obtient, à titre de descendant de Jeanne Hachette, une pension de la part du roi Charles X. Belle arnaque. À la même époque, deux articles dont les auteurs ne parviennent pas à faire la part des choses entre réalité historique et processus de mythification remettent en cause l'historicité de Jeanne Hachette.
De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Tamisée de la Roque, de l'existence de Jeanne Hachette, Revue des questions historiques, 1866.
En 1898, afin de faire taire les détracteurs ou les négateurs de Jeanne l'Aînée, l'abbé Pierre-César Renet publie « Beauvais et le Beauvaisis » dans les temps modernes, époque de Louis XI et de Charles le Téméraire, 1461-1483, dans lequel il fait le tour des arguments des uns et des autres. S'appuyant sur les sources historiques disponibles, il confirme l'existence de Jeanne l'Aînée devenue Jeanne Hachette, mais démontre que l'étendard bourguignon conservé par les autorités n'est pas authentique. Pour l'inauguration de la statue de Jeanne Hachette en 1851, l'original est stocké aux archives et un fac-similé est réalisé à partir de descriptions de l'étendard et d'interprétations des zones endommagées. Malgré qu'il soit encore de nos jours présenté comme historiquement authentique, des études historiques et héraldiques ont permis de montrer que le soi-disant étendard bourguignon de juin 1472 n'est en fait que l'étendard de la ville de Binche, dans le sud actuel de la Belgique, pris lors de sa mise à sac en juillet 1554. Depuis le renversement de la royauté française, la mythologie autour de Jeanne l'Aînée s'est peu à peu débarrassée de son vernis religieux pour en faire une héroïne républicaine, le symbole de la citoyenne française. Alors que la France du début du XXe siècle est divisée sur la question de la laïcité, la fanatique chrétienne Jeanne d'Arc est faite sainte par le Vatican en 1920, quelques mois avant que la France n'instaure la fête nationale de Jeanne d'Arc le deuxième dimanche du mois de mai. L'entendeuse de voix est ainsi préférée à la figure de Jeanne Hachette, de nouveau évoquée à cette occasion et jugée préférable et politiquement plus correcte. Finalement, au cours du XXe siècle, la Jeanne l'Aînée réelle, dont on ne sait rien, disparaît totalement derrière la figure folklorisée de Jeanne Hachette. S'étant fait voler la vedette par Jeanne d'Arc, elle n'obtient pas le statut d'héroïne de la mythologie nationale française, mais perdure seulement dans le folklore régional beauvaisien. Ses apparitions au cinéma ou dans la littérature sont très rares. Outre sa place principale au nom de Jeanne Hachette, sur laquelle trône toujours la statue de 1851, la ville de Beauvais possède une rue à ce nom ainsi qu'un lycée. Au comble de la récupération et du détail, la République française a nommé Jeanne Hachette un palier desservant la salle des conférences et l'annexe de la bibliothèque du Palais du Luxembourg à Paris où siège le Sénat.
Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Explorateurs Picard. Ce week-end, on vous emmène aux fêtes Jeanne Hachette qui ont lieu dans la ville de Beauvais le 25 et le 26 juin 2022. Ces fêtes ont lieu chaque année depuis 550 ans et elles célèbrent la libération de la ville par Jeanne Hachette, enfant de la ville face à l'invasion des Bourguignons. Alors vous allez le voir, pendant tout ce week-end, il y a des animations, des cortèges, des stands, des marchés médiévaux. Nous allons vous faire découvrir tout ça avec nous au travers de ce reportage.
Pour les hominines qui aiment les symboles et désirent rendre hommage à Jeanne Hachette, il est possible d'aller à Beauvais le dernier week-end de juin afin de défiler en costume d'époque pour ce personnage de fiction derrière un faux étendard. Ou bien de prendre des selfies devant la statue qui représente une scène imaginaire. Des cartes postales à l'effigie de l'héroïne sont en vente. Pour les autres, qui détestent les symboles et veulent rendre hommage à Jeanne l'Aînée, les Journées du patrimoine ouvrent tous les ans les portes du Palais du Luxembourg, où il fait toujours bon déféquer sur un palier, et les nuits beauvaisiennes, comme tant d'autres, sont propices aux dégradations de monuments publics.
La hache de ma mère, la hache de mes sœurs, la hache des guerrières qui n'ont ni froid ni peur. Quel gâchis ce crachin dans ton cœur, ô mon frère. Dégage vite ta hache de mes hanches de guerrières qui mouna au samouraï d'un seul coup d'éventail. On mâche et on repêche tout ce que tu empêches. Nos yeux sur ton vitrail, nous griffons ton émail. On crache et on repêche tout ce que tu empêches. La hache de ma mère, la hache de mes sœurs, la hache des guerrières qui n'ont ni froid ni peur. La hache de ma peine enterrée au jardin, je ne la ferai plus mienne, elle sera dans tes mains. Pas besoin de calache ni de dire putain, ma hache est assez trash pour cracher ton venin. La hache de ta haine, je te la rends enfin, que tu te tailles avec ton petit bout de rien. Je ne suis pas la madone, je ne suis pas ta madame. Ma peau c'est de la lave, ma langue est pyromane. Je vais changer la donne et t'éviter le crâne. Tout à mon maximum, dégagé de tes spams. Je ne suis pas la dame, je ne suis pas ton entame. Mon sang c'est une lame de celle qui condamne. Je vais hacker le code qui me lie.
Sur rien.
le quatrième mardi du mois à 17h, le vendredi à 9h30. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 de Ganges-Vigan.